Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Gamainfo. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Mais laissez des commentaires, bordel.
Pixel, t'as pas honte de faire le tapin comme ça?
Non, laissez des commentaires, cliquez.
Les gens, ils ont rien à dire,
On enregistre pas des podcasts pour que personne laisse des commentaires.
Sans oublier ATH.
Salut à tous, et Dwayne m'a demandé de parler du film Gear of War, donc voilà, il y a un film Gear of War qui va sortir, ouais. Et sinon...
Voilà, Dwayne, c'est pour toi, même si tu nous as lâchement abandonné.
Sinon, jouer à Persona 5, c'est très bien.
En plus, il fait la publicité, n'oublie pas d'aller demander ton petit pourboire ATH à ses gars à la fin.
Ouais, ils vont me mettre un coup de pied au cul.
Voilà, pour la publicité, tout ça.
Mais envoyez des Yakuza.
Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, un jeu qui sort d'accès anticipé, incroyable, on n'a jamais vu ça. Valve qui va changer son système de cadeaux sur Steam. On enchaînera ensuite sur Code Vein, un jeu qui nous a hypé, qui personnellement me hype beaucoup moins maintenant, mais on en reparlera tout à l'heure. On évoquera également Darksiders 3 qui est sorti d'un peu nulle part, comme ça... It's alive! Alive! On enchaînera ensuite sur Remedy qui s'émancipe de Microsoft. On parlera enfin, pour terminer, du headshot de la semaine. Je vous préviens, ça va saigner. On va s'attaquer au cas de Bethesda / ZeniMax. On va remettre les points sur les i parce que il y a des conneries qui sont dites en permanence et là j'en peux plus. Et ça va saigner, vous allez voir. Allez, on va commencer avec donc... un jeu qui sort d'accès anticipé. Et oui, ce jeu, c'est The Long Dark. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler de lui si vous écoutez cette émission, puisque c'est un jeu, en l'occurrence, auquel joue Mordren. Ça fait partie, vous savez, de ces nombreux jeux sur lesquels Mordren a dilapidé son argent en early access et qui ne sortiront jamais. Mais voilà, il y a l'exception. Et l'exception, c'est The Long Dark. Alors, The Long Dark, pour rappel, c'est un jeu qui a deux modes. C'est-à-dire qu'il a un mode survie un peu classique, où vous êtes largué en plein milieu de l'Alaska et vous devez survivre le plus longtemps au milieu du froid. Et vous avez un autre mode qui n'était pas sorti jusqu'à maintenant, mais qui va bientôt sortir, qui est le mode histoire, et qui personnellement est le mode que j'attends le plus. Ah mais merde, attends, c'est un... Je viens de me rappeler un truc, je crois que c'est un jeu que j'ai financé en plus.
Super. C'est ça, financer autant de jeux, hein.
Ouais, ouais. À force de financer, tu te rappelles plus de sur quoi t'as foutu ton pognon et le reste. Et ce mode histoire, ben voilà, c'est un mode un peu plus linéaire, etc. Où il y aura toujours de la survie, la gestion du froid, de la faim, etc. Mais avec une ambiance un peu plus poussée. Alors, ça sort le 1er août. Par contre, là où je mettrai mon petit carton rouge, c'est que, certes, la version définitive du mode survie sort le 1er août. Par contre, le mode histoire, il y a que les deux premiers chapitres sur 5 qui seront disponibles le 1er août. Les sorties vont s'étaler, des chapitres suivants, jusqu'en 2018. Donc, ok, bon. Techniquement, l'early access sera terminé. On aura enfin le droit de dire du mal du jeu sans que les gens viennent nous dire « Ouais, mais le jeu, il est pas fini. Attendez la suite. » Par contre, ça fait quand même un moment que le jeu est en accès anticipé. Je pense qu'on aurait quand même pu s'attendre à ce qu'il sorte avec un mode histoire complet. Mais bon, déjà, c'est beaucoup plus que... pas mal de jeux de survie sur Steam qui engrangent des millions et des millions et qui seront, je pense, dans 10 ans, ils seront encore en early access. Arc, je ne pense pas du tout à toi.
Moi, ce que je trouve cool avec ce jeu-là, parce que vu qu'il y avait beaucoup de vidéos en fait de la version en accès anticipé, j'ai pu voir pas mal de joueurs y jouer. Et ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, dans le jeu, certes, il y a des armes à feu, mais en fait, c'est pas un jeu comme on pourrait penser comme un DayZ ou ça. C'est-à-dire, c'est pas un jeu qui est basé sur la mécanique du gunfight. C'est vraiment l'aspect survie qui est au centre de tout.
Surtout que l'arme, déjà, c'est ultra rare à choper.
Voilà.
Et quand t'en chopes une, tu l'utilises vraiment que dans la situation extrême où t'es sur le point de crever, quoi.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc que tu peux utiliser vraiment en cas de dernier recours. Ce qui est prime, c'est vraiment l'aspect de trouver des récoltes, des ressources, de la nourriture, des matériaux pour faire du craft. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux de survie, en fait, qui se prétendent jeux de survie, mais au final, c'est un FPS avec des mécaniques où tu dois gérer ta nourriture et ta boisson.
Bah, en plus, c'est des jeux survie. Ouais, survie Minecraft, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt du jeu, c'est... peut-être qu'au début, t'as un intérêt à survivre. Tu sais, la première nuit dans Minecraft où tu connais rien du jeu et tu sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais finalement, après, tu commences, tu sais, à avoir tes routines de jeu, quoi, on va dire. Et le jeu, ça devient une balade de santé. Et le cœur du jeu, c'est plus la construction et le fait de bastonner avec les autres.
C'est ça.
Que le fait de survivre réellement. Et surtout, les autres jeux de survie, en général, c'est des jeux de survie compétitifs. Soit coopératifs, soit compétitifs. Alors que là, c'est un jeu de survie solo, en fait. où tu es seul au beau milieu de la pampa, quoi.
Ouais, et c'est pour ça que j'attends en fait vraiment l'arrivée du mode histoire, mais en version complète. J'ai vachement hâte de voir si il y aura une vraie narration environnementale qui va être prise en compte et si vraiment l'écriture va être à la hauteur. Et du coup, moi, j'attends plus le mode en fait solo comme toi avec l'histoire que le mode survie classique, quoi.
Pourquoi ça m'intéresse aussi, c'est parce que je vois déjà que dans le mode sandbox entre guillemets, il y a déjà une ambiance qui se dégage du truc, tu vois, au niveau des bruitages, etc. Alors je me dis, s'il y a une histoire derrière et qu'ils essaient de raconter un truc, ça risque d'être très très bien.
C'est vrai que par exemple dans le jeu là, les loups, tu vois, c'est des vraies menaces. C'est pas comme dans The Witcher 3, t'as des loups qui arrivent, tu mets un coup d'épée, c'est fini. Là, c'est vraiment, t'as des loups, tu flippes.
Et en plus, tu les vois qui te suivent à distance, qui s'arrêtent.
Ouais, et pour moi, c'est ça le truc le plus intéressant du jeu. Ça fait vraiment penser à des bêtes qui te traquent, quoi. C'est pas des ennemis basiques de jeux vidéo, et c'est ça qui est intéressant.
Surtout que t'as plein d'autres merdes à gérer en même temps, quoi. C'est pas comme si t'avais que ça à penser,
ouais, bah,
quoi. Il faut trouver de la bouffe, il fait super froid, il faut trouver un endroit de réchauffer ou t'abriter. Parce que le truc, c'est que les ressources, contrairement aux autres jeux, elles repopent pas, tu vois.
C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un vrai jeu de survie, et c'est pas un jeu avec des mécaniques de survie.
Voilà, c'est ça. Bon, allez, on va passer à la suite et on va parler d'un changement chez Valve. Bon, en vrai, je vous avoue tout de suite, c'est pas vraiment... on va pas vraiment parler du changement chez Valve, on va plutôt de parler de la manière dont certains journaleux ont parlé de ce changement, parce que c'est plus un petit coup de gueule de ma part, en fait. Parce que il faut savoir une chose, donc Valve va publier une mise à jour de Steam. À partir de maintenant, quand vous voudrez offrir des cadeaux à un pote, eh bien, ils ont changé la manière dont ça fonctionnait. C'est-à-dire que avant, en fait, quand vous offriez un cadeau, il envoyait un mail, vous pouviez stocker le cadeau dans votre inventaire puis l'envoyer. Là, maintenant, ça va envoyer directement au gars et il aura le choix d'accepter, refuser. Et si jamais il refuse, à ce moment-là, tac, les sous reviennent directement sur votre compte. Voilà. Pourquoi pas ? Là où ça commence à me poser problème, c'est dans la manière dont une certaine presse anglo-saxonne, on va dire, a traité le sujet. C'est-à-dire que, en gros, cette presse n'a pas du tout analysé le pourquoi du comment de la chose. Parce que, quand tu lis cette presse-là, tu dis « Ah ouais, c'est génial, ils ont fait un truc super bien pour les utilisateurs, franchement, c'est super cool et tout. » Sauf que quand tu connais un peu comment fonctionne Steam et pourquoi Valve a fait ça, tu dis, non, mais les mecs, renseignez-vous un peu, quoi. Parce que, je vous le dis tout de suite, si Valve a fait ça, c'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce que, en fait, ils veulent stopper les transactions entre utilisateurs. Il y a un certain nombre d'utilisateurs qui font du commerce de jeux entre eux. Pourquoi Valve a fait cette mise à jour? C'est parce que, tout de suite, quand tu empêches les utilisateurs de stocker les jeux par milliers sur leur compte Steam, ça les empêche de faire correctement leur activité. Ça, plus le fait qu'ils ont mis en place une règle, c'est que il n'est pas possible, en fait, d'offrir un jeu si la différence de prix est trop importante par rapport au lieu où votre pote vit. Par exemple, si vous êtes en France et que votre pote, je sais pas, il est au Japon, tu vois, et que le prix a un écart qui est énorme, ben, vous pouvez pas offrir le cadeau à votre pote. C'est pas possible. Et du coup, ils sanctionnent une partie des utilisateurs pour faire en sorte que les gens ne fassent plus du commerce. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de ça, parce que, moi, ça m'a un peu gassé. Bon, pour être très honnête avec vous, je vise très directement PC Gamer, voilà, c'est dit, qui est un site anglo-saxon qui parle du PC, où, en gros, il taillait une pipe monstrueuse à Valve, et ça m'a un poil agacé sur le moment. Arrêtez de vous faire le relais de communication de Valve, et analysez un peu ce qui se passe, s'il vous plaît, merci. Je veux dire, si un utilisateur lambda comme moi, qui connaît un peu Steam, c'est ce qui se passe, vous devriez être en mesure de savoir ce qui se passe quand même. Voilà.
Bah, peut-être aussi qu'ils savent ce qui se passe, mais ils ont juste pas envie d'aborder le sujet parce que ça les intéresse pas, tu vois. Enfin.
Non, mais à la limite, s'ils veulent pas aborder le sujet, très bien, mais tu fais pas un post en mode... Enfin, je t'assure, c'est indécent, quoi. Enfin, c'est vrai que le fait que, tu vois, t'aies pu envoyer de mail et que ça arrive directement dans l'inventaire de ton pote, oui, c'est plus pratique, effectivement, je suis d'accord. Mais il faut couvrir toute l'histoire, tu vois. Après, je dis pas non plus de porter un jugement sur ce que fait Valve ou machin. De leur point de vue, ça peut se comprendre, tu vois. Je veux dire, ils veulent pas que les utilisateurs payent leur jeu, abusent du système pour que leur jeu soit acheté 3 fois moins cher, tu vois. Enfin, de leur point de vue, moi, ça me paraît pas absurde non plus.
Oui,
mais juste qu'on présente la totalité des faits.
Ouais, mais
quoi,
après, enfin, je veux dire, moi, si j'ai un ami qui vit par exemple au Mexique, qui ne paye pas la TVA comme moi, je paye en France, ce genre de choses là, et que voilà, j'ai envie de lui faire plaisir pour lui offrir un jeu, parce que c'est mon ami, tu vois, c'est son anniversaire et que je peux pas aller directement le voir jusqu'au Mexique et pour lui donner un cadeau. Je sais que le mec il est sur Steam, je suis sur Steam. Bah voilà, je dis bon, bah, tiens mon pote, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bah je t'ai acheté par exemple Half-Life ou je sais pas quel jeu et puis j'ai envie de te l'offrir. Donc du coup, je te l'offre. Et là Valve il dit ah non, ton pote il vit au Mexique. Non non non, tu dois l'offrir que à tes potes qui doivent vivre en France. Non mais voilà, ça c'est complètement con. Laisser les gens offrir ce qu'ils veulent à qui ils ont envie et puis ça c'est limite ça les regarde pas.
Après honnêtement dans le fond, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi c'est le même débat que tu sais sur le piratage. Est-ce que ça vaut le coup de casser les couilles à la grande majorité des utilisateurs pour une micro-minorité qui vont aller faire du troc sur un site ultra obscur. Voilà.
J'avais lu à l'époque que Steam avait dépassé 65 millions d'utilisateurs actifs. Si déjà même 1 million de personnes feraient ça, ça serait déjà énorme. Mais à la limite pour Valve, ça serait une goutte d'eau, tu vois. Parce que la personne, tant qu'elle paye le jeu, bah, elle a le jeu et puis après, elle fait ce qu'elle a envie avec le jeu. C'est son argent et tu vas pas lui reprocher de vivre dans tel ou tel pays. Donc voilà.
Bon, écoute, on va passer à la suite. Et on va maintenant parler du retour des morts vivants. En particulier d'un certain Darksiders 3. Eh oui, Darksiders 3 est de retour. On l'attendait pas du tout. Enfin, c'est sorti de nulle part. Enfin, pas de nulle part, d'Amazon en l'occurrence. Comme d'habitude, Amazon toujours dans les bons plans, n'est-ce pas? Je rappelle donc que Darksiders a disparu avec THQ, que récemment il y a un studio qui était remonté avec la marque THQ qui s'appelle THQ Nordic, mais qui appartient à une autre boîte, hein, et que les gens dans cette boîte ont été formés par des anciens donc qui ont bossé sur les deux premiers Darksiders. Voilà. Et ces gens-là se sont en l'occurrence occupés du remaster qui est sorti il y a pas très longtemps et qui était filé gratos à tous les possesseurs du jeu sur PC, ce qui était super cool. Et donc, comme Amazon a vendu la mèche, il a bien fallu communiquer, quoi. Des infos ont été dévoilées, et il y a eu au passage une petite vidéo de gameplay comme ça qui a été montrée. Donc, ce sera un monde ouvert. Alors, entendons bien, moi, quand ils disaient un monde ouvert, je m'attendais à un vrai monde ouvert, mais non, c'est monde ouvert, entre guillemets, à l'ancienne, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que, bon, c'est un Zelda Ocarina of Time, quoi, on va dire.
En fait, alors, pour tu vois, parce que moi, j'ai pu tâter pas mal du premier Darksider. De ce que j'ai l'impression de voir, ça a l'air de ressembler en fait beaucoup dans les mécaniques. C'était un jeu découpé en zones, et puis après le monde ouvert en fait ne sert que de transition pour accéder à des donjons.
On est d'accord que c'est la structure de Ocarina of Time où t'avais la plaine d'Hyrule,
voilà,
et
oui, c'est
tout
ça.
Autour de la plaine d'Hyrule, t'as les zones, voilà.
Voilà,
quoi.
Et enfin et même par rapport à toutes les productions qui sont sorties récemment, par exemple à Dragon Age, The Witcher, etc. C'est un monde ouvert en fait qui est très enfin, qui n'est pas vivant, en fait.
Pas un vrai monde ouvert, enfin, comme on l'entend aujourd'hui, quoi.
C'est
si tu
ça.
Veux. Enfin, moi, c'est pour ça que je pense qu'ils ont tort de communiquer là-dessus, parce que aujourd'hui, quand tu entends monde ouvert, il y a un certain nombre d'attentes qui collent pas avec ce qui est montré là, en tout cas pour le moment. Il y a aussi autre chose. Bon, apparemment, chaque zone sera axée sur une thématique.
Ça, c'est cool.
Sur un péché.
Ça, c'est bien ça.
C'est cool, mais encore une fois, sur la vidéo qu'ils ont montré, ça m'a pas paru flagrant.
Ah oui, mais après, tu vois, c'est peut-être, enfin, les vidéos de ce qu'on voit. Peut-être que tu vois, c'est le début, c'est l'introduction. Enfin, ils ont peut-être qu'ils ont pas voulu.
Spoiler, on va voir après.
Voilà,
hein,
ça,
oui, oui. Et pour terminer, donc le jeu se déroulera en même temps que Darksiders 2. Voilà. En d'un point de vue chronologique, ça se passe pile poil au même moment. Il y a Mort qui fait sa life et donc là, vous allez jouer Fury. On a vu la vidéo. Bon, j'ai envie de vous demander, ben, qu'en pensez-vous, Pixel? Je crois que toi, t'es pas fan de la formule classique de Zelda, il me semble.
bah écoute, après avoir fait dernièrement Twilight Princess, ouais.
C'est quand même un jeu de
après
de
sa sortie, 2005, mais bon.
Donc il.
Ouais, bah début des années 2000, donc c'est normal que.
Ouais, donc.
Pour moi, le jeu soit vieux. Et là, bah écoute, je m'y attendais pas qu'il y ait un troisième. Je pensais que ça serait mort, mais mort de chez mort pour toujours. Et là, il nous en sort un troisième. En plus, c'est une femme l'héroïne. Elle a un fouet qui fait très très mal, j'ai envie de dire, c'est un peu caricatural là sur le coup.
Elle est en talon aiguille, je précise.
Et bon, c'est une sorte de pseudo monde ouvert. J'ai envie de dire, ouais, attendons de voir, comme disent des professionnels de la profession, j'attends de voir plus.
Pour l'instant, moi, je suis surtout dubitatif, en fait, parce que la caméra, je la trouve trop proche du personnage. Enfin, dans les phases de combat, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'elle se rapproche du personnage, et du coup, tu vois plus grand-chose, en fait. Donc ça, pour le moment, ça me dérange un peu. La direction artistique, elle m'a pas transporté non plus. Alors, pas dans le sens, tu vois, elle me plaît pas, parce que je sais que, par exemple, ATH, il a pas terminé le premier, parce que il aime pas la direction artistique à l'américaine, quoi, entre guillemets. Mais là, je trouve qu'en plus, par rapport au premier, ça manque encore plus d'identité, quoi, en fait. C'est surtout ça. Après, c'est une vidéo pré-alpha, donc on peut espérer qu'il y ait des changements à ce niveau-là plus tard. Mais, enfin, moi, ça m'a pas plus emballé que ça, quoi, on va dire.
Mais ce que je trouve intéressant dans ce troisième épisode, déjà, c'est que, bah, voilà, ils mettent une femme en tant que personnage principal. Il y a le fouet qui fait penser un petit peu à Castlevania.
Ouais, qui peut être intéressant pour les phases de déplacement parce qu'elle l'utilise notamment dans les phases de plateforme où elle s'accroche à des,
ouais, c'est ça.
À des trucs avec le fouet pour, ça peut être pas mal, ça.
Après, moi, je reste aussi un peu comme Pixel, je suis un peu dubitatif sur le fait que j'ai l'impression que, contrairement à Darksiders, tu vois, la licence Zelda, elle a évolué, notamment avec le dernier Breath of the Wild, et que là, ils nous font un truc vachement réchauffé. Et tu vois, même par exemple, aussi pour comparer le design du personnage du 2, et du 3, je trouve que le personnage du 2 est beaucoup plus classe et stylé dans que le personnage du 3. Là, le personnage du 3...
Il y a plus de personnalité, quoi, entre guillemets.
Bah, surtout que là, le personnage du 3, c'est une femme, quoi, avec des talons. Puis moi, ce qui me dérange aussi, c'est son armure, là, un peu style Gear of War. Après, bon, tu me diras, je préfère qu'elle mette une armure style Gear of War qu'elle se promène en string, donc voilà. Du coup, moi, je dirais, pour ce jeu-là, je vais rester sur ma réserve. Après, pourquoi pas, si vraiment, en fait, ce qu'ils ont annoncé, par exemple, le fait qu'il y ait... un niveau représente une thématique des sept péchés capitaux et que ça soit vachement bien justifié dans les énigmes et
une bonne narration environnementale, tout ça, ça
ouais,
serait cool.
Bah là je pourrais dire ok, ça me tente un petit peu. S'il a des mécaniques qui sont rafraîchissantes, ouais, ça pourrait être sympa, quoi.
Bon, allez, on va passer à la suite et on va parler de Code Vein. Enfin, on va en parler en vitesse parce que fondamentalement il y a pas eu grand chose de montrer sur le jeu. C'est le jeu qu'a trouvé Namco Bandai pour remplacer Dark Souls, voilà. Bon, sauf que c'est pas fait par From Software, c'est fait par l'équipe qui avait fait notamment God Eater,
ouais,
c'est ça.
Ça.
Alors, grosso merdo, ce serait des combats et une structure style Souls, de ce qu'on comprend, mais avec un design un peu plus japonais classique, quoi, on va dire. Alors, moi, je voulais juste dire une chose sur ce jeu-là. Arrêtez de faire des trailers teasers où vous mettez une DA de psychopathe, enfin un truc super original, hyper stylé, etc., pour nous sortir derrière un jeu avec une DA, bon, qui est pas dégueulasse fondamentalement, hein. Mais c'est juste que ça fait tellement générique après ça, et ça a tellement rien à voir surtout. Et du coup, moi qui étais ultra hypé quand j'ai vu le teaser et tout, je me disais, putain, si le jeu il a cette gueule-là, ça va être génial. Enfin, l'ambiance, la direction artistique, ça va être un truc de ouf. Et là, tu tombes sur un truc, bon, qui est beaucoup plus convenu, quoi. C'est de l'animation japonaise classique, entre guillemets. Ouais, bah, je suis un peu redescendu sur terre, quoi. Surtout qu'après, quand j'ai lu, en plus, que t'allais avoir un compagnon qui est dirigé par une intelligence artificielle... Écoutez, moi la dernière fois j'ai joué à un jeu japonais où t'avais accompagné avec une intelligence artificielle, c'était Resident Evil 5 et ça s'est mal passé. Donc
ouais, moi je suis un peu dans le même cas que toi. Moi je m'attendais à un jeu en fait en cel shading en fait, avec une direction artistique un peu comme celle du trailer, et finalement bah
tu sais, un peu un délire comme Okami qui avait un délire différent, hein, je suis d'accord, mais tu sais qu'il est au bout de son délire, quoi, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que Okami, tu le vois, tu veux pas le confondre avec un autre jeu, et je m'attendais à un truc comme ça, quoi, si tu veux.
Bah en fait là ils auraient pu très bien appeler le jeu God Eater 2 Codename Vampire, tu vois. Ça aurait très bien pu faire l'affaire, parce que enfin moi j'ai joué un petit peu à God Eater, et passer la première heure de jeu, c'est un jeu vachement générique, et vu que c'est la même team qui reprend derrière et que c'était à la base des développeurs sur PSP, bah ça me fait très peur pour la suite du projet, donc attendons de voir les previews, les premiers retours, mais pour l'instant je suis pas du tout chaud, quoi, en fait.
Surtout que ça fait un peu le projet, alors ok, From Software veut plus bosser sur les Souls, voilà. Du coup on va faire notre Souls à nous avec un autre studio.
J'ai un peu l'impression que From Software, ils ont tellement apporté d'argent à Bandai Namco avec leur licence, tu vois, c'était un truc à la base personne n'aurait misé un copec sur cette licence, tu vois, depuis Demon's Souls. Ils veulent pas lâcher l'affaire des Souls, ils veulent vraiment continuer à faire un Soul bis.
Bah, surtout que quand ils voient le succès de Nioh à côté, ils doivent se dire, bon, il y a moyen, quoi, ça...
Oui, mais bon...
Ça peut marcher, quoi.
Nioh, franchement, par rapport à Souls, il a apporté un truc en plus, tu vois, il a apporté vraiment le côté dynamique.
Bah, c'est même plus que ça, c'est que Nioh, pour moi, même si, dans l'esprit, effectivement, on peut l'inscrire dans la lignée des Souls, mais il est suffisamment différent, en fait, pour se démarquer et vivre par lui-même, quoi, en fait, c'est ça, le truc. Ouais. Parce que tu consommes pas un Nioh comme tu consommes un Souls, parce qu'il est tellement différent, si tu veux... que t'apportes pas du tout le jeu de la même manière, mais ça on en reparlera quand on fera le test avec Pixel, un de ces joueurs.
C'est ça, ouais, mais ouais. Alors que là, que tu vois, Code Vein, Apparemment, on contrôle une espèce de vampire du futur, ou peut-être qu'il y aura une mécanique qui va être liée à ça, qui va apporter un gameplay intéressant. Je suis vachement pessimiste pour le moment, mais voilà, après, il vaut mieux partir d'un truc où je suis pas trop emballé et que finalement ça me met une claque.
Ça serait une bonne surprise, voilà, que l'inverse.
Alors que si je m'emballe trop pour un truc comme ça, et au final, bah, si je joue, c'est tout pourri. Donc, à voir. À Bandai Namco et aux développeurs de me surprendre.
Pixel, est-ce qu'on a... Il faut arrêter de vouloir faire des sauces à toutes les sauces.
Bah surtout quand t'as un Kara Design Shonen Jump pour adolescent de 15 ans, qui me sort par les trous de nez.
Après, je voudrais nuancer parce que effectivement les personnages principaux, c'est exactement ce que tu dis. Par contre, je trouve que les monstres.
Ouais, tu vas
quand
pouvoir
même...
les créer. Tu vas pouvoir au moins créer le personnage principal.
Ouais.
Donc ça sous-entend peut-être qu'on peut créer aussi une femme, parce que là pour l'instant le personnage principal c'était un mec. Suivi d'un personnage de l'IA qui était une femme. Peut-être qu'on va pouvoir créer l'inverse, ou qu'on va pouvoir créer une femme et un homme qui est contrôlé par l'intelligence artificielle, ou deux hommes ou deux femmes. Enfin, là, pour l'instant, dans la vidéo, on le voit pas, quoi. Donc, on verra bien. Et j'espère que la création de personnages sera beaucoup plus, sera un peu comme dans Dark Souls 3, en fait, assez poussé, et qu'on va pouvoir créer des personnages moins typés et Shonen Jump, justement, bah, quoi, parce que ça, le chara-design, ça m'a laissé de, ça m'a coupé.
Si avec le temps, j'ai appris quelque chose des éditeurs japonais, c'est de ne jamais espérer quelque chose des éditeurs d'Avatar dans les jeux japonais. Ils sont quasiment tous nuls à chier, quoi, vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que pour eux, ça a l'air d'être une fonctionnalité de ouf qu'ils aiment beaucoup, mais honnêtement, c'est très dur de s'adapter aux éditeurs. Peut-être que le seul éditeur qui était à peu près potable pour faire un personnage, c'était l'éditeur qu'on avait dans les Pro Evolution Soccer, où tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais. Beaucoup de jeux où tu crées un personnage dans les jeux japonais, en général, l'éditeur, il est moisi, quoi. Même, je me rappelle aussi, par exemple, c'était... comment il s'appelle le jeu, là, de Capcom? Dragon Dogma. L'éditeur de Dragon Dogma est nul à chier aussi, quoi.
Oh, je trouve pas. Moi, j'arrivais à faire des personnages intéressants. Mais bon.
Après, là où j'attends, c'est que je trouve quand même que le setting post-apo est intéressant, parce que c'est un setting qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans un Souls-like, quoi, on va dire. Et ouais, ça peut être cool après, hein, si c'est bien foutu. Le problème, c'est quand tu t'inscris dans les pas d'un Souls, et surtout quand ton teaser c'était Prepare to Dine, bah il y a des gens, ils commencent à avoir des attentes, tu vois, et je suis pas sûr que ce soit très judicieux, en fait, de le présenter comme ça. Bon, on passe à la suite.
Ouais.
Mmh.
Et on va maintenant parler de Remedy. Remedy qui s'émancipe de Microsoft puisqu'ils ont signé un deal avec 505 Games qui va à partir de maintenant publier leurs jeux, notamment un projet qu'ils vont financer à hauteur de 7,75 millions de dollars, plus ils vont s'occuper de tout le financement du marketing et la publication du jeu, quoi, tout simplement.
Bon, un éditeur, quoi.
Voilà. Enfin, disons que moi, ce qui m'a étonné, c'est quand même le chiffre de 7,75 millions. C'est pas beaucoup pour un jeu Remedy. Ouais. Mais après, peut-être que, comme Remedy veut garder le contrôle sur ses licences, peut-être qu'ils ont financé qu'une partie exprès. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et que le reste, c'est Remedy qui a mis les sous dedans. Mais, dans tous les cas, moi, ce que je voulais noter, c'est que, ben, voilà, Remedy n'est plus sous le giron de Microsoft. Et vu ce que dit son patron chez Games Industry, je vous mettrai une interview en lien de l'émission où il cause avec eux. Je vous invite juste à regarder la dernière phrase, c'est assez éloquent. C'est, en gros, il dit que ils ont pas été toujours en contrôle de leur licence par le passé. Et que cette fois, ils aimeraient bien, contrôler de A à Z la licence. Voilà. Tout est dit.
Exactement.
Encore une fois, mais vous faites quoi, Microsoft? J'espère vraiment que vous avez engagé des mecs, là, que vous avez des studios sous la besace, parce que moi, ça me rassure pas, là, ce que je vois ces derniers temps. Voilà, vous laissez partir Platinum, vous laissez partir Remedy, il va rester qui à la fin?
Il restera Halo et Forza, et puis Gear of War. Pour l'instant, les seules licences qui pour moi, qui sont attachées à Xbox, qui restent, c'est, il y a ça, et puis après, il y a d'autres jeux qui sont pas encore sortis, donc comme Sea of Thieves.
Ouais, leur super jeu de pirate, voilà, dont j'oublie le titre à chaque fois.
C'est
là.
Sea of Thieves.
Et dont tout le monde se fout.
Mais par contre, tu vois, moi, ce que j'ai un peu peur sur avec Remedy, c'est que le communiqué, en fait, précise que le jeu, il va s'appeler... Enfin, le nom de code du jeu, c'est P7. Et ils disent que ça sera un projet original. Sauf que, après, quand le patron de Remedy parle, il dit que ça sera un jeu d'action cinématique à la troisième personne, Ok, donc dans ce cas-là, c'est un truc... C'est...
Ça me dit quelque chose.
Voilà. Et qui situera dans un nouvel univers conçu par Remedy. Ils nous promettent une histoire intrigante avec une expérience de longue haleine et des mécanismes plus poussés que dans les précédentes productions du studio.
Ah, attends, ils ont promis des mécanismes plus poussés, mais...
Oui.
C'est vrai que quand t'entends ça, tu dis, putain, les mecs, vous allez encore faire le même jeu, quoi.
Non, mais c'est ça. Depuis Max Payne, en fait... C'était donc Max Payne, à l'époque, c'était une réussite totale, et c'était un très bon jeu.
Mais surtout, Max Payne avait une mécanique originale bien à lui, quoi. Enfin, le fait de ralentir le temps, etc., c'est un truc que jamais personne n'avait fait avant lui.
Ouais, et puis après, en fait, depuis le succès de Max Payne, en fait, Remedy, bah, ils font toujours le même jeu, sauf qu'après, ils changent, enfin, leur environnement, l'histoire. C'est un jeu où tu joues avec bah deux boutons, donc t'as une action pour tirer, une action par exemple dans Max Payne et Quantum Break pour ralentir le temps, etc. Mais finalement c'est un jeu qui est toujours conçu la même chose, c'est-à-dire t'arrives dans un niveau en général qui est très linéaire, puis t'as une cinématique qui se déclenche, qui te raconte l'histoire, et puis tu continues à shooter, et puis ça recommence. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce que moi, enfin, les univers que font Remedy, j'y trouve bien, enfin notamment Alan Wake et Max Payne, mais le problème c'est que Max Payne est sorti dans les années 2000 et on est en 2017, ça fait 17 ans quasiment qu'ils y sont pas renouvelés, donc moi je suis très intrigué par ce qu'ils vont faire, mais j'ai peur que ce soit vraiment un autre jeu Remedy tel quel, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, alors que je pense que c'est un studio qui a vraiment du potentiel, notamment en termes pour raconter des histoires, parce que les histoires dans le jeu vidéo c'est vraiment la cinquième roue du carrosse, donc moi j'aimerais bien que les jeux que font Remedy soient un peu plus ambitieux.
Bon, allez, on va maintenant terminer sur mon petit coup de gueule de la semaine. Voilà. Le gros scandale de la semaine même. Bethesda, ZeniMax, j'en ai plein le cul. Voilà. C'est dit, ils ont envoyé une lettre d'un avocat à un petit studio. Ce studio, c'est celui qui est derrière Prey for the Gods. Et en gros, l'idée, c'est que... Ok, votre jeu, il y a Prey dedans. Nous, on a un jeu qui va sortir là bientôt tout de suite qui s'appelle Prey. Vous allez changer votre titre tout de suite, sinon ça va barder. Vous vous imaginez bien, comme à chaque fois dans ces cas-là, ça fait le tour du net, hein, parce que la grosse boîte qui s'attaque au petit studio indé, tout ça, bon, les gens réagissent assez violemment. Et t'as ZeniMax qui commence à déployer une défense derrière que je trouve assez douteuse. À savoir qu'on commence à dire oui, mais ils font comme si c'était la première fois qu'ils découvraient le truc. Plusieurs fois, on les a prévenus. Déjà, quand ils ont lancé leur Kickstarter, on leur a dit que ça allait poser problème, qu'il fallait qu'ils changent de titre. Ouais, alors... Parce que, en gros, l'excuse de ZeniMax, c'est l'excuse qu'on nous sort à chaque fois qu'une boîte comme ça harcèle une autre boîte. C'est-à-dire qu'on dit, vous comprenez... Le droit des marques, parce que c'est de ce dont il s'agit, il faut que tu protèges ta marque. C'est-à-dire que si tu restes passif et quelqu'un utilise une marque qui est similaire à la tienne et que tu te défends pas, ben du coup tu perds ton droit sur cette marque-là. Parce que tu es resté passif, t'as pas défendu ton droit, et donc le droit américain dit que voilà, ça y est, c'est terminé, merci, au revoir. Voilà, ça c'est l'excuse qu'on nous sort à chaque fois. C'est-à-dire, vous comprenez, nous... On n'a pas le choix. C'est pas qu'on est des gros connards qui abusent du droit des marques pour harceler d'autres studios et y montrer les muscles. C'est juste qu'on n'a pas le choix, tu vois. On le fait à notre corps défendant. Dans le fond, on est des gars très sympas, mais on n'a pas le choix. C'est le sale boulot, on salit les mains, mais on n'a pas le choix. Alors déjà, je voudrais préciser une chose. Moi, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal renseigné parce que à chaque fois qu'on me dit quelque chose, c'est bizarre. Quand j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, en fait... J'ai quand même envie de vérifier si on se fout vraiment pas de ma gueule. Il y a mon cerveau qui se met en marche et qui dit « Attends, si ça marchait vraiment comme ça, il y a un mot qui est commun, tu vois, et on te dit « Ouais, s'il y a un mec, s'il utilise le même mot dans une phrase, qui par ailleurs n'a rien à voir avec ton titre, hein, parce qu'on est d'accord, Prey et Prey for the Gods, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, t'as un mot qui veut dire quelque chose et t'as une phrase entière où il y a un jeu de mots à l'intérieur, d'ailleurs, qui veut dire autre chose. » Direction artistique, rien à voir. Concept du jeu, rien à voir. Titre du jeu, moi je suis désolé, à moins d'être un gros débile, rien à voir. Donc voilà. Enfin, moi je sais pas, hein, déjà ce que... Est-ce que vous trouvez que les deux titres sont se ressemblent, quoi? Enfin, il y a une confusion entre les deux. Prey, c'est Prey for the Gods.
Non, enfin, il y a pas de... Enfin, y a... Moi je trouve qu'il y a pas qu'il y a de confusion, parce que Prey for the Gods sera tiré dans 2 ans et on commencera à parler à ce moment-là. Je me serais peut-être dit... C'est la suite de Prey de Bethesda. Après, j'aurais vu la vidéo, je me suis dit, bah non, ça n'a rien à voir, en fait. Je me serais peut-être dit, à un moment, peut-être les 10 premières secondes, Peut-être que c'est un sous-titre.
En étant un peu bourré, voilà.
Peut-être que c'est un sous-titre pour dire la, c'est la suite de Bethesda. Mais après, bon, je me serais renseigné sur le jeu, j'aurais vu que ça
reste. Parce qu'on est bien d'accord que le titre, c'est pas Pray, deux points, for the gods, c'est Pray for the gods, c'est une phrase entière.
Voilà, c'est ça.
Et même, en réfléchissant cinq minutes, Pray, on est d'accord, c'est un nom commun, quoi, c'est un nom du langage courant. Est-ce que vous réalisez le nombre de jeux qui ont des termes genre War, Fantasy, Call of Pripyat, Call of Duty.
Même encore pire, imagine tous les jeux qui ne sortiraient pas si on interdirait les sous-titres de merde, genre Origin, Révélation, tu vois. Tous les jeux qui te disent Révélation dans le titre, et peut-être dans le jeu, ça ne révèle à chaque fois quasiment rien. mais tu vois, il y a les sous-titres, imagine, genre, admettons, tu vois, le Resident Evil Révélation qui est sorti par Capcom. Capcom dit non, Révélation, ça nous appartient. Et du coup, bah, t'as pas le droit de faire Assassin's Creed Révélation, t'as pas le droit de faire Battlefield Révélation. Enfin, ils interdiraient aux autres d'utiliser même le sous-titre, quoi. Tant que c'est un mot qui est utilisé dans le dictionnaire de la langue commune, que ce soit anglaise, française ou vietnamienne ou même extraterrestre, tant que c'est dans un dictionnaire et que c'est un mot que tout le monde peut utiliser, ce n'est pas un mot que Bethesda a inventé, près, c'est pas, ça ne leur appartient pas.
Et mais surtout, si ça marchait vraiment comme ils le disent, mais vous imaginerez le bordel que ce serait, quoi. Mais on aurait des procès tous les matins.
Mais oui.
On fait plus de titres, quoi, en gros, tu vois, c'est plus possible. Si on peut plus utiliser des mots communs, ça marche plus, tu vois. Mais admettons, je suis quand même allé renseigner sur le sujet. À chaque fois, ce que j'ai vu, c'était des avocats qui postaient sur leur blog, etc., ce qu'ils disaient, en gros, c'est le droit des marques, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une confusion chez le consommateur. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire, ok, là, les deux noms se ressemblent, en fait, ça crée une confusion chez le consommateur, et donc, s'il y a confusion chez le consommateur, alors à ce moment-là, il y a infraction. Et au-delà de ça, c'est pas un genre, tu vois, il y a un mec, t'as oublié de lui foutre un procès. Ah, ça y est, hop, t'as perdu ta marque, fini. Non, mais fini, t'as perdu ta marque, c'est fini. Je veux dire, non, c'est pas comme ça, parce que, en fait, il faut qu'il y ait répétition. Et, dernier point, admettons, on va me dire, oui, non, mais ça, c'est des trucs que t'as trouvé sur des blogs de connards, tu vois, ça se trouve, c'est même pas des vrais avocats, très bien. Ok. Alors, je vous invite à aller voir deux liens que je vais vous poster dans le commentaire de l'émission. Le premier lien, c'est un lien qui va sur le site de United States Patent and Trademark Office. C'est là où tu vas déposer tes marques, tout simplement, aux États-Unis, où ils expliquent très clairement comment ça marche. Et surtout, ils expliquent dans quel cas tu peux être attaqué pour infraction de marque. Et là, c'est très clair. Hein. Il faut que la personne qui porte plainte prouve que sa marque est antérieure à la tienne. Tu peux pas dire ah oui moi j'ai déposé cette marque hier, toi ça fait 10 ans t'as déposé cette marque, t'as, je te fous un procès. Non, ça marche pas comme ça. Premier point. Et second point, c'est marqué noir sur blanc que il faut qu'il y ait confusion, il faut que les deux titres provoquent une confusion chez le consommateur. C'est marqué noir sur blanc. Et au cas où ça vous suffirait pas, parce que on sait jamais, hein, tu sais, c'est un organisme public, il paraît que c'est à la mode de discréditer les établissements publics, donc dans le privé, c'est vachement mieux, tu vois, ils sont beaucoup plus compétents. Bah écoute, on va aller voir quelqu'un du privé, du coup, on va aller voir CD Projekt. Il se trouve que CD Projekt, il y a pas si longtemps, a déposé une marque sur le mot cyberpunk. Suite à quoi, il y a une polémique qui a commencé à enfler, parce que les gens commençaient à dire, oui, vous êtes en train d'essayer de vous approprier le mot cyberpunk, et après, plus personne ne pourra utiliser le mot cyberpunk dans le titre de ces jeux. Les gens réagissant comme ça, pourquoi ? Parce que ils ont eu l'expérience Bethesda avec Scrolls de Mojang, par exemple, ou encore l'exemple de King avec Candy Crush Saga et The Banner Saga. King étant par ailleurs un grand spécialiste de la chose. Sauf que CD Projekt, voyant la polémique qui commençait à enfler, a posté un petit communiqué sur Twitter. Je vais vous mettre un lien vers le dépliant. Où ils expliquent, écoutez, chose incroyable, exactement la même chose. Il faut qu'il y ait confusion entre les deux titres, parce que c'est un mot courant, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, qu'on arrête de nous raconter des conneries, à la base, il n'y a pas infraction. Pourquoi ? Parce que ben les deux titres ont juste rien à voir, et comme il n'y a pas infraction, Bethesda ne risque pas de perdre sa marque pour manque de vigilance, parce qu'il n'y a pas infraction en fait. Donc j'en ai plein le cul de voir ce genre d'argumentaire sorti à chaque fois par les éditeurs quand ils font de la merde, parce que c'est pas vrai, voilà.
Tu vois par exemple cette histoire-là, il n'y aurait jamais eu de bruit, J'aurais pas fait le rapprochement tous les deux près, parce que pour moi c'est des jeux totalement différents. Il y en a un qui est en vue FPS, qui est un jeu qui se joue un peu comme un Deus Ex, etc. Et l'autre qui est un jeu qui est inspiré de Shadow of the Colossus, donc un jeu à troisième personne avec où on affronte des gardiens. Et puis même les deux titres
dans un univers fantasy, et alors ouais. que l'autre est dans un univers futuriste.
Et puis même les deux titres, c'est pas la même chose. Il y en a un qui s'appelle juste Prey, et l'autre il y a une suite de mots qui est derrière, qui veut dire pour les dieux.
Il y a une suite de mots qui signifie quelque chose en plus, tu vois. Enfin, il y a un jeu de mots dans le truc.
Donc il y a bien deux titres. Il y a bien un jeu qui s'appelle Prey et un autre jeu qui s'appelle Prey for the God. Donc ça veut dire...
Après, c'est vrai que le problème de ce système-là, c'est que à partir de quel moment tu considères que un titre peut causer la confusion chez les consommateurs ? Et c'est sur ça que jouent les éditeurs procéduriers comme Bethesda. Ah oui, non, mais là, il y a confusion. Et toi, t'es là, t'es une personne normale dans la vraie vie, tu dis mais non, enfin, il y a pas de confusion.
Non mais moi
je sais pas sur quelle planète vous vivez, il y a pas confusion entre les deux. Non.
À la limite, Prey for the God aurait été un jeu de vue à la première personne qui utiliserait les mêmes mécaniques dans un univers qui se rapprocherait de celui de Prey, avec genre une thématique qui se rapprochait du propos qui est développé dans l'autre jeu. Il y aurait là, tu peux dire qu'il y aurait des fortes inspirations, peut-être que tu vois, OK. Mais là, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas comme si, genre, il y avait le jeu Prey qui était sorti, qui avait eu un succès tellement monumental que tout le monde voudrait s'inspirer de ce jeu-là. Et du coup, que Prey for the God aurait fait un truc qui voulait se rapprocher dans cet esprit-là pour surfer justement sur cette licence, tu vois. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Les deux jeux sont deux licences totalement différentes. Ce n'est pas du tout le même titre. Le contenu n'a rien à voir. Enfin, il y a rien qui peut la rapprocher si ce n'est qu'il y a deux fois le même mot, enfin, la même syntaxe de mots. Et en plus de ça, les deux ne veulent pas dire la même chose.
Je vous rappelle, hein, donc il y a un jeu de mots, c'est Prey, P-R-A-Y, prier, et P-R-E-Y, Prey, proie. Donc, proie pour les dieux, et derrière, t'as un logo où il y a une femme qui prie. Donc, il y a un petit jeu de mots derrière tout ça.
Je me demande si des fois, en fait, on devrait pas traduire tous les jeux dans toutes les langues, tu vois. Par exemple, en français, on aurait le jeu qui s'appelle proie, et l'autre, prier pour les dieux, tu vois, et puis voilà. Et enfin, parce que les Américains, ils voient bien que c'est pas le même mot, en fait, aussi. Donc, c'est ça que je vois pas d'où peut venir, en fait, cette idée que Bethesda a voulu mettre un stop à ça. Et les développeurs de Prey for the God ont dit que les coûts qu'ils allaient engager pour des procédures judiciaires, parce que c'est un studio indépendant, faut pas oublier, le Kickstarter pour Prey for the God, c'est $500,000. $500,000 pour Prey de Bethesda, ce n'est même pas la campagne de communication. Du coup, tu vois, les mecs qui ont $500,000, ils allaient pas demander, ils allaient pas faire un Tipeee ou bien un autre Kickstarter pour demander de les protéger contre Bethesda. Du coup, ils ont préféré changer le nom du titre plutôt que de poursuivre une procédure judiciaire parce que c'est le petit qui ne peut pas se défendre contre le gros.
Enfin, cela dit, je tiens à nuancer ça parce que The Banner Saga, qui était à peu près dans les mêmes eaux, ils se sont défendus contre King, hein, et King, c'est aussi gros que, ouais, que
peut-être,
Bethesda.
Peut-être même plus gros que Bethesda encore.
Disney plus.
Mais après, voilà. Peut-être, tu vois, enfin, c'est des gens, tu vois, enfin.
Bah, c'est des vétérans de l'industrie qui savent très bien ce qu'ils font, qui connaissent leur roi, donc voilà. Je voulais quand même laisser parler un peu Pixel, le pauvre, on a monopolisé la parole depuis tout à l'heure.
Ouais, bah, ça me fait penser à, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, justement, donc j'ai réfléchi à la question, c'est que, tout ça, c'est tellement débile, cette histoire, que ça revient à, par exemple, vouloir déposer un genre de gameplay. Tu vois?
C'est ça.
Genre, imagine demain, t'as Activision qui veut déposer le genre de gameplay FPS. Et ça voudrait dire que, ah non, nous on est Activision, on a déposé le genre de gameplay FPS, donc plus personne sur la planète ne va pouvoir développer un jeu de tir à la première personne, parce que ça nous appartient. Ça revient à un truc aussi stupide que ça. C'est complètement débile. Mais j'ai envie de dire que ZeniMax, en fait, s'ils se protègent comme ça, même s'ils savent que l'autre studio, ils sont dans leur bon droit, en fait, ce qu'ils veulent, c'est jouer la montre, aller au procès, forcer la partie adverse à dépenser tout l'argent qu'ils ont pour finir à poil. Finir à poil avant la fin du procès. Comme ça, les mecs qui en face, ils disent « Désolé, on n'a plus d'argent, on peut plus engager d'avocat parce que la procédure, elle est trop longue. » Et ça, c'est une technique typiquement américaine qui existe qu'aux États-Unis, à ma connaissance en tout cas. Et ZeniMax, ils ont les moyens de faire durer un procès sur des années, même si ça leur coûte $10 millions. Ils s'en foutent, ils sont blindés. Et il y a aussi une deuxième partie, c'est que c'est surtout pour leur image de marque auprès des actionnaires. Parce que si ils montrent un quelconque trait de faiblesse face à une société adverse. Qui plus est, des indépendants, des petits qui gagnent face à un gros, les actionnaires auront moins confiance et ils vont retirer leurs billes.
Oui, enfin, les actionnaires, je suis pas sûr qu'ils passent leur temps à regarder tous les jeux indés qui sortent sur le marché, à regarder tous les... Enfin, tu vois, enfin...
Non, il le faut pas, sauf que là, c'est mis sur la place publique. Tout le monde en parle sur Internet. Les actionnaires vont forcément être au courant et ils vont regarder ça de très près.
Ah ouais, non, ce que tu veux dire, c'est que là, ils lâcheront d'autant moins maintenant que c'est sur la place publique.
Voilà, à chaque fois qu'il y a un truc sur la place publique, les sociétés cotées en bourse, elles font super gaffe. Donc là, ZeniMax, ils jouent la sûreté parce que derrière, ils savent que les actionnaires peuvent retirer leurs billes. Hein. Parce que les actionnaires, ils en ont rien à foutre. Hein. Si tu montres un signe de faiblesse, ils vont mettre leurs billes ailleurs.
Hein. Enfin, ce que tu veux dire, c'est si cette histoire serait restée discrète et que aucun site n'aurait repris la news et on aurait parlé, limite, ils s'en foutraient. Mais là, vu que maintenant, tout le monde en a parlé, bah maintenant, Bethesda, ils veulent montrer les gros bras, quoi. Une fois que ça a été déballé et que tout le monde est au courant quasiment, quoi, bah ils peuvent plus faire machine arrière, en fait.
Ouais, après, j'ai envie de leur dire, oui, mais les mecs, de toute façon, vous aviez pas à faire ce que vous avez fait au départ, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que, je précise, je suis allé un petit peu causer avec le vice-président de Bethesda sur Twitter, n'est-ce pas? Et j'avais besoin de me défouler, voilà. Et pour faire comprendre que, non, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi, s'il vous plaît, quoi. Vous, à aucun moment... vous n'aviez obligation de faire ça. Donc c'est parce que en fait moi ce qui m'agace là dans la stratégie de communication qu'ils ont adoptée depuis là, c'est-à-dire d'insinuer, tu vois, ah ouais, mais attendez, on est sympa nous, on les avait prévenus, c'est eux qui sont incompétents. Ils auraient dû se bouger le cul quoi, tu vois. Mais c'est pas le sujet, mais on s'en bat les couilles. À la base, le problème, c'est que vous avez abusé de votre droit sur votre marque, c'est tout, point. À la base, vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait. Parce que si tous les éditeurs se mettaient à faire ce que vous faites, bah putain, on serait pas dans la merde. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que là, essayer de breveter le mot War, ça va être grandiose. S'il y a un éditeur qui essaye de faire ça un jour, je pense que ça va être du caviar, quoi. Enfin bref. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, messieurs.
Mmh.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut et Pixel, arrête de faire ton putaclic, on dirait un youtubeur qui demande des commentaires. Lâche les pouces bleus.
Oh, demain je vais aller déposer Game Info.